Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lorsque nous méditons cette parabole du publicain et du pharisien, nous comprenons bien que de nos jours, c'est ce qui semble être un point important de ceux qui ont été baptisés, de ceux qui sont comptés comme chrétiens et comme catholiques en France, et qui finalement sont plus ou moins proches de l'Église par leurs pratiques religieuses et même par leur vie morale quotidienne. En effet, comme le disait Mgr Rey, même dans les écoles publiques sous contrat, ils se retrouvent avec des familles qui ne considèrent plus qu'il faille laisser les enfants aller au cours de catéchisme, même dans une école catholique sous contrat, et qui discutent le fait d'y aller. Et Mgr Rey, de l'évêché de Toulon, de se poser la question, comment leur faire comprendre une certaine cohérence à aller dans une école catholique et d'avoir un enseignement de catéchisme. Et on se retrouve depuis quelques décennies avec diverses causes dans ce monde qui, après la guerre de 39-45, devait s'imposer petit à petit. Un confort plus important, une possibilité de loisirs plus importante, une moins grande dépendance vis-à-vis du couple, avec la possibilité de ne pas avoir d'enfants ou de les diminuer par rapport à la venue naturelle des enfants, alors même que certains couples ne peuvent pas en avoir et sont stériles, et d'autres pourraient en avoir assez naturellement. Eh bien, la société, plus particulièrement occidentale, a goûté d'une très grande modernité après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on peut considérer qu'une très grande force de public contre la foi et la religion s'est installée avec une certaine indifférence, voire une certaine hostilité par rapport à la foi et par rapport à la morale, et la morale biblique et la morale chrétienne. Ce qui fait qu'il y a eu toutes ces causes, et parmi ces autres causes, eh bien l'attitude des évêques et des prêtres qui ne savent pas comment séduire et garder des baptisés qui n'ont plus de pression sociale pour pratiquer, pour suivre le troisième commandement et sanctifier le dimanche, et pour vivre leur foi qu'ils ont reçue à leur baptême. En effet, le baptême, ce sont les mérites du Christ qui nous sont donnés par un signe qui est puissant et que l'on apprécie plus particulièrement lorsqu'on est adulte et lorsque, par exemple, dans le mouvement néo-catéchuménal, et le nouveau curé de Saint-Odile est du mouvement néo-catéchuménal, donc on va voir à nouveau des baptêmes par immersion à Saint-Odile qui seront proposés. Eh bien, voyez-vous, on est plongé dans l'eau et on ne peut plus respirer. Ça signifie la mort. Ensuite, vous sortez de l'eau et vous respirez à nouveau, ça signifie que vous êtes vivant et ressuscité. Mais entre-temps, ce sont les mérites du Christ qui vous sont donnés. Alors, vous me direz que les petits bébés étaient inconscients et que pendant des siècles, finalement, c'est par habitude et par coutume et par culture qu'on était chrétien. Mais on vous répond que non, il y a une véritable grâce à ce que l'on donne l'amour de Jésus à un bébé. Mais d'une mille manières, on a essayé de vous attirer pour que vous continuiez à aller à la messe, que vous mettiez les enfants au catéchisme, et force est de constater, comme le disait Saint Jean-Paul II, qu'il y a une apostasie, c'est-à-dire que les gens ne vont plus à la messe et ne suivent plus ce que le Christ et la tradition biblique nous a donné. Voilà la réflexion première lorsqu'on écoute la parabole du pharisien et du publicain. Pourquoi donc ? Eh bien parce que de nos jours, le pharisien, c'est celui qui observe les 10 commandements, c'est celui qui suit la loi de Dieu. Tandis que le publicain serait l'homme d'Occident, plus particulièrement, et qui vit sa vie. C'est plus particulier pour un publicain, parce que ce sont des personnes qui collaboraient avec l'occupant romain et qui, en prélevant l'impôt, volaient les particuliers, volaient les juifs de leur propre peuple. Mais je fais une comparaison plus large par rapport à ceux qui ne pensent pas assez à l'importance dans la volonté de Dieu de la prière commune. En effet, non seulement nous sommes appelés à réfléchir et à remonter vers Dieu qui nous a créés, qui nous donne la vie, et si nous avons de la piété vis-à-vis de nos parents ne nous ont pas créés, ils nous ont procréés. Ils nous ont donné notre corps, mais au moment de notre conception, c'est Dieu qui a créé un esprit immortel, uni à notre corps. Et donc, la religion consiste à entrer en relation, à parler avec Dieu. Mais au-delà du premier et du deuxième commandement, d'adorer Dieu et de respecter son nom, il y a le troisième commandement, qui est de prier ensemble. Sanctifier un jour de la semaine en allant à la prière commune et en ne travaillant pas ce jour-là. Mais vous me direz qu'il y a plein d'exceptions et qui sont tolérées par l'Église. Si vous êtes restaurateur, vous pouvez travailler. Si vous êtes boulanger, on va vous permettre de travailler à tel ou tel endroit pour ne pas perdre un salaire important et une certaine nécessité. Et le fait de ne plus travailler le dimanche pour pouvoir se reposer et pour que toute la société entière se repose est de moins en moins un souci. Et des personnes baptisées, catholiques, voire des prêtres, des évêques vont dire « Eh bien maintenant c'est comme ça ». Il n'y a guère plus que les délégués syndicaux qui se battent pour le repos dominical, mais plus vraiment les religieux. Mais alors, le publicain de cette parabole, si on élargit et si on va à celui qui est sincère, mais qui ne va pas à la messe, il manque une volonté de Dieu qui nous dit, si vous vous reposez ensemble et si vous priez ensemble, vous allez consolider votre foi et votre espérance. Vous allez, même si en ville on ne se connaît pas beaucoup, on essaye de faire des sorties paroissiales, mais bon, c'est un peu difficile parfois, de briser la glace. À la sortie d'une messe dans un village, tout le monde se connaissait, on pouvait s'échanger quelques mots. En ville, vous partez vite, et il y a peu de parvis, comme on dit. Eh bien, donc celui qui ne vient pas à la messe, et là actuellement on a 95% des baptisés quand même, qui ne respectent pas le troisième commandement. Alors, est-ce qu'ils respectent le quatrième commandement? Est-ce qu'ils aiment leur père et leur mère? En général, oui. Est-ce qu'ils sont violents? Est-ce qu'ils respectent le cinquième commandement? En général, oui. Est-ce qu'ils ont de la pudeur et qu'ils usent de leur corps et de leur sensualité pour un amour personnel et spirituel dans le mariage, dans le sixième commandement? Alors là, c'est plus compliqué. Le mariage est le don de l'un et de l'autre, une promesse qui finit par nous gêner, parce que tout le monde nous dit autour de nous que si on ne s'entend plus, si on ne s'aime plus, il faut se séparer. Alors le publicain n'est pas seulement l'homme qui collabore avec l'occupant romain et qui vole ses concitoyens. C'est tout pécheur qui a des difficultés à suivre ses 10 commandements. « Oh, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, 7e commandement. Est-ce que je mens? Est-ce que je dis du mal des autres, 8e commandement ?» Ça arrive. Mais le 9e commandement, qui n'a pas le désir d'aller vers tel ou tel en dehors du mariage, jusqu'au 10e commandement qui nous demande de ne pas être jaloux, non pas de voler, de ne pas voler, c'est le 7e commandement, mais le 10e commandement, c'est de ne pas être jaloux de l'argent, de la prospérité des autres. Eh bien, de nos jours, où est le pharisien? Où est le publicain? Théoriquement, vous êtes tous des pharisiens parce que vous êtes venus à la messe le dimanche. Le publicain, c'est celui qui est au fond de l'église, qui n'ose même pas s'asseoir et qui ne va pas à la messe tous les dimanches, mais qui est entré dans une église et qui prie, qui parle à Dieu, qui se confie à Dieu et qui espère que Dieu va l'aider. En effet, Dieu est bon, le Christ est doux et humble de cœur. Et ceux qui prient avec sincérité sont exaucés, du moins dans la paix de leur conscience, à défaut de retrouver un travail ou d'être en bonne santé. Car le grand trésor, c'est la paix de la conscience. C'est de vouloir faire le bien et regretter le mal qu'on a fait. C'est notre nature humaine et on ne pourra jamais la changer. C'est la raison pour laquelle ce publicain repart justifié, béni par Dieu, parce qu'il est très sincère. Seulement, alors, vous êtes censé ne pas être sincère et de venir à la messe uniquement par culture ou par obligation ou par pression sociale. Peut-être que parmi vous, il y a des enfants ou des jeunes qui se disent « je vais encore à la messe pour faire plaisir à mes parents ». Toute la difficulté, c'est d'être vrai. Mais la vérité dépasse la simple sensibilité, la sincérité d'un moment, car il nous faut vraiment construire l'amour mutuel. Il nous faut vraiment être fidèles les uns aux autres. Il nous faut véritablement suivre les 10 commandements, parce qu'ils se résument par l'amour de Dieu, qui est notre Père, notre Frère, l'esprit d'amour du Père et du Fils, et l'amour du prochain, qui peut aller jusqu'à l'amour de l'ennemi, lorsque nous souhaitons qu'une personne qui nous a fait du mal arrête de faire du mal, se convertisse. Et si vraiment on est chrétien, on souhaite que celui qui fait du mal arrête de faire du mal, mais surtout veuille aimer son prochain et sauver son âme. Quand on prie pour son ennemi pour qu'il sauve son âme, nous ne sommes pas des idiots. Bien au contraire, si notre ennemi se convertit, il cessera de nous faire du mal. Et s'il sauve son âme, ça veut dire qu'il sera tourné vers Dieu et vers la bonté. Alors oui, cela vaut la peine de connaître la révélation, la bonne nouvelle d'un Dieu qui s'est fait homme, né d'une femme, la Vierge Marie. Alors oui, cela vaut la peine d'être baptisé. Alors oui, cela vaut la peine de recevoir Jésus lui-même dans la Sainte Hostie. Cela vaut la peine de se confesser à un inconnu, serviteur de Dieu, tenu au silence et qui nous écoute au nom de Jésus pour nous accorder le pardon. Véritable, certain, même si dans notre prière personnelle, nous pouvons aussi avoir ce pardon avec la sincérité de notre âme. Eh bien, que la Vierge Marie, dans son Assomption, bénisse notre bonne volonté, celle de tous les Français, celle de tous les étrangers qui sont en France, pour qu'ils ne fassent pas de mal et qu'ils soient des instruments de paix. Que la Vierge Marie, dans son Assomption, bénisse tous ceux qui ont reçu la grâce et tous ceux qui sont appelés à la recevoir, pour que la France et les autres pays, mais pour que la France soit dans la véritable paix, c'est-à-dire dans l'union de la charité à Dieu et à notre prochain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.